RCF. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission dédiée à la gestion des finances personnelles au service de la qualité de vie au travail. Je suis Amandine Borne, spécialiste en management des compétences et des ressources humaines, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Dedieu, conseillère en investissement financier. Ensemble, nous allons explorer la gestion des finances personnelles au service de la QVT, une conversation qui promet d'être riche, concrète et inspirante pour tous ceux qui souhaitent améliorer leurs finances. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace. Bienvenue dans cette émission.
Polychrome pour s'épanouir au travail, présenté par Amandine Borne sur RCF Alsace.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour Émilie Dedieu.
Bonjour.
Merci de répondre présente et d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la gestion des finances personnelles au service de la qualité de vie au travail, la fameuse QVT. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bien sûr. Donc je suis Émilie Dedieu, j'ai 37 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Et aujourd'hui, j'exerce le métier de conseiller en investissement financier, qui peut être un métier qui peut faire peur, mais qui en fait est un métier au service de tous les projets de vie.
Comment vous êtes arrivée à ce métier-là, Émilie ?
Alors, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation et j'ai travaillé pendant des années dans le social. J'ai pris des postes à responsabilité avec une forte envie de changer le monde. Et puis... J'ai accompagné beaucoup de la médiation familiale, des couples, et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça manquait d'éducation financière. Et j'avais un grand frère gestionnaire de patrimoine, et régulièrement, j'allais lui poser des questions pour aider dans mon programme de séparation bienveillante les couples. Et en rigolant, un jour, il m'a dit « C'est dommage, on fait le même métier, mais t'es vachement moins bien payé. » Et donc, ça a été le moment où j'ai commencé à réfléchir à tout ça et à réfléchir à pouvoir donner une forme d'éducation au couple et à bien réfléchir sur plein de choses, notamment un contrat de mariage, qu'est-ce que ça implique, voilà, toutes ces questions et qu'est-ce qui se passe si on se sépare et anticiper toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est un peu comme ça que la finance est venue sur mon chemin alors que j'étais pas du tout prédestinée à faire ce métier.
Donc vous n'êtes pas comme Obélix, vous n'êtes pas tombé dans la marmite de la finance, vous étiez plutôt d'abord du côté social pour après regarder ce côté finance qui peut-être d'ailleurs ne vous intéressait pas au début.
Non, j'avais même un rejet de toutes ces questions centrées sur l'humain, sur la relation et à me dire que l'argent pouvait même être source de problèmes. Et c'est justement par cette histoire et par cette expérience de vie aussi que ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir réfléchir les choses bien différemment et de créer une approche différente.
Et alors, Émilie, pour vous, c'est quoi le bien-être au travail ?
Alors, le bien-être au travail, je commencerai par dire qu'est-ce que c'est pas ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le mal-être au travail ? Moi, j'ai envie de dire peut-être que aller au travail en ayant une boule au ventre, se lever le matin en se disant que ça a pas vraiment de sens. C'est toutes ces questions et je pense que pour moi le bien-être c'est avoir le sentiment d'être utile, de nourrir un projet, quelque chose de grand, quelque chose qui fait du bien. C'est se lever le matin avec une énergie folle de l'accomplir et puis d'être entouré de gens qui nous font du bien et de pouvoir avoir cette joie d'être au travail en fait.
Et de par votre expérience, selon vous, quels sont les liens qu'on peut avoir entre bien-être au travail et finances personnelles ?
Il y en a beaucoup, parce que je pense que quand on n'est pas hyper à l'aise avec ses finances personnelles, on a un esprit qui est occupé à penser à tout ça. Et malheureusement, quand on se préoccupe de quelque chose de manière régulière dans sa tête, on a aussi moins d'efficacité dans notre travail. Moins de disponibilité, plus de stress, moins d'envie d'être en lien avec les autres parce que on a des choses dans notre tête, on pense à certaines choses au moment où on est au travail. Et aujourd'hui, je pense que être à l'aise dans ses finances personnelles, c'est aussi se sentir serein et pouvoir être disponible à d'autres choses et notamment au travail.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on veut faire une séparation vie personnelle, vie professionnelle, quand on a des problèmes financiers, c'est plus difficile de venir mettre une séparation, une frontière entre ces deux espaces de vie.
Oui, je pense que de manière générale, quand on vit des problèmes dans sa vie personnelle, ils viennent forcément un peu impacter notre vie professionnelle, avec des mesures différentes selon qui on est, mais Bien sûr que ne pas être bien et ne pas être serein dans sa vie personnelle et notamment sur des questions financières viennent impacter cet endroit. Et souvent, aujourd'hui, la première source de revenus aujourd'hui, c'est notre travail. Donc si on a des problèmes financiers et que ben c'est notre travail qui nous apporte cette ressource, il y a forcément un lien de cause à effet à cet endroit-là.
Ce serait quoi les liens, justement ?
Ben peut-être l'envie d'avoir une augmentation, d'avoir un peu plus de revenus, de pouvoir discuter ou avoir une personne, un interlocuteur pour pouvoir expliquer sa situation, expliquer que c'est difficile en ce moment, peut-être avoir une avance sur du salaire ou peut-être avoir une forme d'éducation ou d'accompagnement autour de ça, d'aller chercher des ressources, des expériences peut-être d'autres personnes qui sont passées par là. Et de pouvoir trouver ça pour pouvoir retrouver aussi cette sérénité et aller traiter le problème, en fait, à la source, en reprenant des questions de quel est le problème, combien il manque, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous met en stress. Aujourd'hui, il peut y avoir du surendettement, il peut y avoir un problème de santé avec une absence de rentrée d'argent qui est dans le foyer, des traites et des prêts qui continuent à être payés. Et en fait, aujourd'hui, les gens, ils sont peu informés de tout ça. Et quand on vit un petit peu, j'ai envie de dire, le métro, boulot, dodo, l'administratif peut faire peur, aller se renseigner, ne pas avoir la bonne information peut faire peur. Et puis des fois, on a honte aussi. Et donc, ce sentiment de honte peut créer un repli sur soi. Il peut y avoir des choses vraiment diverses à cet endroit-là.
Alors justement, c'est un sujet qui est très personnel. Comment l'entreprise peut avoir des signaux faibles de ses difficultés financières ? Personnelles, du coup.
Je pense que... Comment repérer les signaux au niveau des salariés ? Je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est aussi d'observer et de connaître nos salariés et de créer une relation de confiance avec eux où ils se sentent de pouvoir confier des choses. Après, il y a aussi cette limite de, en tant que manager, mais de pouvoir exprimer ce qui pourrait venir peut-être entacher le travail, ce qu'il y a à faire dans l'entreprise, la disponibilité, ça peut être aussi une gestion d'agenda quand on est pris ou qu'on est stressé. On a beaucoup plus de difficultés à se concentrer, on a beaucoup plus de difficultés à être en lien avec les autres, on a toutes ces questions. Et le manager, s'il connaît un peu son salarié, il va voir des signes. C'est pas forcément financier, hein, ça peut être d'autres choses, mais je pense que la relation de proximité avec le manager ou avec les services de DRH ou de RH peuvent être aussi présents dans ces questions pour pouvoir proposer un entretien, pour pouvoir observer et dire on constate qu'en ce moment ça a l'air d'être plus compliqué ou on se sent moins dans le groupe et de pouvoir ouvrir cet espace de dialogue.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours.
Transforme votre quotidien Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace.
On aborde aujourd'hui la gestion des finances personnelles au service de la qualité de vie au travail. Et pour cela, je suis accompagnée de notre invitée Émilie De Dieu, conseillère en investissement financier. Dans la première partie, on a évoqué le lien entre qualité de vie au travail et gestion des finances. C'est bien, effectivement, on a vu qu'il y a des problématiques personnelles qui peuvent rejaillir sur le travail. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes financiers et quelles sont les bonnes pratiques de gestion financière pour justement réduire ces problématiques-là?
Eh bien, je pense que il y a pas mal de bonnes pratiques à avoir et en France, on manque cruellement d'éducation financière sur ces questions. Mais aujourd'hui, il y a un exercice que je propose à toutes les personnes que j'accompagne, mais c'est un exercice que je faisais déjà en tant qu'éducatrice. Ça s'appelle le tableau budgétaire.
Le tableau budgétaire. Qu'est-ce qu'on met dans ce tableau?
Eh bien, justement, en fait, faire un budget et noter l'entièreté de nos dépenses.
Toutes les dépenses?
Toutes, mais vraiment toutes. Dans ce tableau, on peut y trouver autant notre loyer qu'on peut y trouver les cadeaux d'anniversaire et les cadeaux de Noël.
Donc des dépenses qui vont être récurrentes, mais également des dépenses exceptionnelles.
Exactement. En fait, quand on construit un budget, ce qui est important, c'est de tout compter. De ne pas avoir de surprise pour s'assurer que son budget peut être à l'équilibre ou même que parfois il y a un petit reliquat qu'on peut mettre de côté. L'idée, c'est que on fait le point sur ce qui sort et on fait le point sur ce qui rentre. Et on vérifie. Et puis, si on se rend compte que c'est pas à l'équilibre, l'idée, c'est d'aller voir où on peut aller faire des postes d'économie. Est-ce que on peut réduire sa facture de téléphone en changeant d'opérateur? Est-ce que on peut réduire sa facture d'électricité? Est-ce que, voilà, toutes ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, notre logement, il prend une trop grosse part par rapport à notre budget? Est-ce que c'est adapté? Voilà. Donc ça, c'est des choses, en première pratique, faire un tableau budgétaire.
Donc c'est ce qu'on appelle faire ses comptes?
Ouais, ça va même plus loin que faire ses comptes, parce que on va avoir une vision même parfois annuelle sur des dépenses. Faire ses comptes, on va le faire souvent mois par mois, on regarde son relevé, on regarde ce qui est sorti. Mais là, c'est vraiment cette notion d'aller chercher de l'anticipation aussi.
Donc c'est aussi faire un prévisionnel, un peu comme en entreprise finalement.
Oui, complètement. C'est toujours important d'avoir cette vision et de se dire, par exemple, on prévoit d'avoir un enfant, quel sera le budget d'un enfant? Et c'est aussi des choses à anticiper. Donc ça, pour moi, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape aussi qui est importante, c'est de pouvoir régulièrement mettre de côté, en se constituant une chose qui est très importante, ça s'appelle le matelas de sécurité. Le matelas de sécurité, ça va correspondre à peu près à 3 mois de charge fixe, qui va permettre que si jamais il y a un souci, on a un peu de côté et on peut venir pallier. Et ça, c'est important aussi pour se dire, finalement, je suis pas toujours à flux tendu, j'ai un petit matelas, j'ai une petite réserve, et si on a un incident, il y a quelque chose. Pourquoi on parle de 3 mois? Parce que 3 mois, c'est le temps que met une prévoyance, c'est le temps que met une assurance emprunteur pour être, pour que, enfin, c'est
pour
le temps de carence, en fait. Le temps de carence, c'est ces 3 mois. 90 jours.
Donc, pour avoir un matelas de sécurité et connaître ses charges fixes sur 3 mois, il faut effectivement faire ce tableau. Sinon, on peut pas connaître
exactement
le montant à mettre de côté.
Exactement. Et ensuite, c'est régulièrement se faire de l'épargne au moment où le salaire arrive. C'est-à-dire que si on met de côté en début de mois, qu'on a bien drivé son tableau budgétaire et qu'on sait que normalement, on peut mettre 100 euros, 200 euros de côté, on les met de côté tout de suite quand on a notre salaire.
Plutôt que d'attendre la fin du mois en disant combien il va me rester, donc
exactement,
je vais mettre de côté, on anticipe en début de mois, peut-être même sous forme automatique?
Ça peut. Si on a bien travaillé son budget, oui. Après, il y a des mois où, par exemple, il y a l'anniversaire des enfants, on sait que c'est un mois où on va mettre moins de côté. Les mois de Noël, c'est aussi des mois où on met moins de côté.
C'est plus difficile, en
les
effet.
Les vacances. Donc là, ça peut se faire de manière...
Mais il y a toujours une excuse, en vrai, tous les mois, pour ne pas mettre de côté. Comment on fait pour se discipliner?
Il faut s'y astreindre et faire cet exercice tous les mois. C'est vraiment important. Quitte à aller rechercher parce qu'on a un besoin, c'est toujours plus compliqué d'aller rechercher sur un compte où on a mis de côté que de consommer ce qu'il y a sur notre compte courant.
Donc l'idée, c'est presque de se dire, finalement, ce que j'ai mis de côté, c'est comme si je ne l'avais pas, en fait.
Exactement.
De ne pas y toucher, de ne pas être tenté d'y toucher.
Oui.
D'accord, donc ce tableau de bord, ce tableau de pilotage, également de l'épargne, quoi d'autre?
Et puis, après, la question, c'est aussi d'anticiper des projets et de voir un peu plus loin. C'est-à-dire que si demain, je vais faire, on va parler peut-être de grands projets qui concernent tout le monde, mais si on parle d'études d'enfants, si on parle de retraite, d'achat immobilier, de choses comme ça, eh ben, c'est des choses qui se préparent. Et se donner une vraie rigueur sur cette question pour nourrir ces projets. Et de bien définir les projets qui sont importants pour nous.
Et comment on fait pour les préparer ?
Eh ben, pour les préparer, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, dans combien de temps. Et ensuite, on va réfléchir à une stratégie qui va permettre de le faire. Il existe plein de solutions aujourd'hui financières en France qui nous permettent de pouvoir faire de l'épargne avec des temporalités différentes et des avantages différents.
Vous auriez un exemple concret ?
Oui. Par exemple, pour tout ce qui va être épargne de précaution ou de sécurité, on va utiliser nos livrets bancaires. Mmh. Nos livrets bancaires, en une fraction de seconde, on fait un virement, ça se retrouve sur notre compte courant. Et puis, on va avoir peut-être des objectifs à plus long terme avec une vraie envie de protéger sa famille ou d'optimiser une succession. Et là, on va utiliser un produit qui, pour moi, est un couteau suisse de la création d'un patrimoine, c'est une assurance vie. C'est disponible et à la fois, on peut le faire travailler sur des horizons différents en prenant des niveaux de risque différents.
Mais sur l'assurance vie, il me semble que l'argent est bloqué.
Non.
D'accord.
L'argent n'est jamais bloqué sur une assurance vie. L'argent est optimisé fiscalement au bout de 8 ans. Mais si au bout de 6 mois où vous avez placé de l'argent sur une assurance vie, vous en avez besoin, vous avez tout à fait la possibilité d'en sortir.
Donc c'est presque plus intéressant qu'un livret.
Alors c'est un calcul à faire, c'est toujours la même chose. Sur quoi on investit dans une assurance vie ? Une assurance vie c'est une enveloppe, mais qu'est-ce qu'on y met dedans ? Et ça dépendra des projets qu'on veut nourrir. Si on nourrit des projets à court terme, on va plutôt être sur du sécurisant. Donc avec un niveau de rentabilité peut-être pas très élevé, mais peut-être plus intéressant que nos livrets aujourd'hui. Mmh. Et puis quand on va nourrir des projets à long terme, là on peut aller faire des choses très sympas. En ayant une vraie réflexion de, je sais pas, je veux financer les études de mes enfants dans 12-13 ans. On a une vraie vision, une optimisation fiscale de ce qu'on fait et un vrai plan d'action. Aujourd'hui, un exemple simple, les études d'enfants, ça coûte environ entre 25 et 30 000 euros pour faire du bac plus 5. All inclusive, c'est okay. Comme les vacances, tout est compris. Aujourd'hui, si on met 100 euros par mois de la naissance de nos enfants à leurs 18 ans, on a ce capital.
Donc ce que vous dites en fait, Émilie, c'est qu'il faut anticiper et qu'on ne peut pas vivre au jour le jour en disant « advienne que pourra ».
Alors on peut, c'est juste que ça va être plus dur. Mais si on anticipe et qu'on fait des petits efforts réguliers, c'est beaucoup plus simple.
Polychrome, pour s'épanouir au travail, RCF Alsace.
On poursuit notre discussion avec Émilie Dedieu sur le thème de la gestion des finances personnelles au service de la qualité de vie au travail. On a abordé les liens entre gestion financière et bien-être au travail, et puis ensuite on a échangé sur les bonnes pratiques individuelles. Ok, mais Émilie, est-ce qu'au niveau des entreprises, il y a aussi un rôle à jouer, des choses qui peuvent être mises en place ?
Oui, il y en a plusieurs et aujourd'hui c'est aussi un de mes chevals de bataille. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont des choses à disposition pour permettre à leurs salariés de pouvoir créer de l'épargne.
Des choses à disposition, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Il y a une loi qui s'appelle la loi de partage de la valeur, qui a poussé un cran supplémentaire ces dernières années pour permettre aux entreprises qui font des bénéfices de pouvoir partager la valeur avec les salariés qui la créent. Et aujourd'hui, il existe des dispositifs comme le plan épargne entreprise, mais aussi le plan épargne retraite collectif, qui permet, moi je dirais que c'est un outil gagnant-gagnant. Il va permettre à l'entreprise de pouvoir créer de l'épargne pour ses salariés, qui sera pas fiscalisé, en tout cas peu fiscalisé pour l'entreprise, et permettre aux salariés d'avoir cette épargne à disposition, qui sera pas fiscalisée non plus pour lui.
Comment ça se passe? Parce que là, j'ai l'impression que l'entreprise, elle se transforme en banque.
Alors, pas exactement, parce que c'est un assureur qui va accueillir tout ça. Mais le plan épargne entreprise est de l'épargne plutôt court terme. On est sur du 5 ans de blocage. À partir du moment où le salarié place sur ce plan, il va pas être soumis à l'impôt sur le revenu sur ses sommes, mais il va pouvoir les débloquer au bout de 5 ans. Mais il y a plein d'événements particuliers qui vont lui permettre de pouvoir peut-être les débloquer avant. Notamment un mariage, la naissance d'un troisième enfant, l'agrandissement d'une maison, l'achat d'une maison ou d'un appartement. Enfin, il y a plein de choses qui vont lui permettre de pouvoir utiliser cette épargne. Le plan épargne retraite collectif, lui, va être un peu plus rigide parce que l'objectif, c'est vraiment une préparation de retraite.
Comme son nom l'indique.
Exactement. Donc, l'idée, c'est que c'est des blocages à l'âge légal de la retraite. Mais il existe aussi des cas de déblocage anticipé qui, clairement, sont pas sympathiques.
Mmh.
Donc, on va
lesquels,
pas forcément... Le décès du conjoint,
okay.
La validité...
En effet.
Voilà, c'est moins sympa, moins souple. Mais en tout cas, ça, c'est des outils que l'entreprise peut mettre à disposition de ses salariés.
Et quel argent le salarié place dessus ?
Alors, il existe plusieurs formes. Il y a soit des versements volontaires du salarié, il décide de placer lui-même des sommes sur ce plan, soit des versements liés à des primes qui sont versées par l'entreprise, notamment dans des accords d'intéressement ou de participation. C'est-à-dire que au moment où l'entreprise va définir les primes liées à la performance de l'entreprise, ils vont être proposés aux salariés de les placer sur ces outils ou de les percevoir. S'ils les perçoivent, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Et s'ils ne les perçoivent pas, ils peuvent les placer sur ces plans pour économiser cet impôt.
Donc ce que vous dites, Émilie, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent être à l'initiative de dispositifs qui vont permettre d'optimiser la gestion financière de leurs salariés.
C'est ça. C'est une forme d'épargne un peu forcée parce que les libre quand même pour le salarié, il n'est pas obligé de le faire, mais de permettre d'avoir l'avantage pour le salarié et pour l'entreprise de cette défiscalisation et de faire de l'épargne pour pouvoir nourrir d'autres projets.
Et est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres leviers que les entreprises peuvent mettre en place ?
Bien sûr. Aujourd'hui, je pense que les entreprises, elles peuvent apporter cette éducation financière. Par exemple, quand je mets en place de l'épargne salariale dans une entreprise, j'explique aux salariés ce plan et d'expliquer comment il fonctionne et quels sont les avantages pour eux. Mais surtout, je fais une permanence au moment du versement des primes dans les entreprises pour permettre aux salariés qui en ont le besoin de venir interroger sur quoi ils veulent placer ces primes. Parce qu'encore une fois, c'est toujours la question de pour quel projet, dans combien de temps. Et ça, c'est un vrai accompagnement. Et aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'être accompagnés pour faire ces choix. J'ai plein de clients qui me disent « ça y est, ma prime arrive, sur quoi je place ? Je ne sais pas sur quoi placer. »
Donc vous êtes une optimisatrice.
Ouais.
C'est pas très joli comme mot, mais...
L'idée, ouais, c'est surtout de réaligner les projets des gens avec les investissements qu'ils font.
Peut-être aussi, du coup, de réconcilier les gens avec l'argent.
Eh ben moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que l'argent, c'est un outil. C'est pas une fin en soi, c'est pas... C'est un outil, c'est une ressource, comme on pourrait avoir du temps, comme on pourrait avoir d'autres choses. Et donc, c'est important de pouvoir, apprendre à le gérer. On parle tout le temps en entreprise de gestion du temps.
Mmh.
Pourquoi on parle pas de gestion financière ? Pour moi, c'est des choses qui sont des ressources qu'on a à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous qui vont nous permettre de nourrir nos projets.
Donc, un aussi de vos aspects là, sur lequel vous travaillez, c'est de lever les tabous liés à l'argent ?
Complètement. Aujourd'hui, et c'est, j'ai envie de dire, un troisième pilier que les entreprises aujourd'hui peuvent aborder, c'est la notion de pouvoir parler ouvertement d'argent dans l'entreprise. Des investissements, des choses, de pouvoir libérer un peu cette parole. On n'a pas besoin de rentrer dans des détails très praticaux, enfin très très chiffrés et très, mais au moins de donner de la vision, d'expliquer pourquoi il y a une prime plus importante cette année par rapport à l'année prochaine, à l'année d'avant, pourquoi aujourd'hui on recrute, d'avoir une politique de transparence aussi. Et pour moi, ça c'est aussi lever les tabous dans une entreprise pour pouvoir permettre aux salariés aussi eux de lever ce tabou.
Et donc de communiquer, ça permet aussi de mettre du sens sur le pourquoi on fait ça.
C'est ça. Et pour moi aujourd'hui, la communication, c'est une forme de liberté aussi. Libérer cette parole autour d'un sujet qui, en France, est quand même fortement tabou, parler d'argent.
Et alors, Émilie, en conclusion, parmi tout ce qu'on s'est dit, quel est le point clé à retenir ?
Aujourd'hui, moi, je pense que tout le monde a besoin de cet accompagnement. Aujourd'hui, moi, je suis persuadée que mon métier est d'utilité publique. Alors, ça peut paraître très prétentieux, mais je suis persuadée aujourd'hui que tout le monde, qu'on ait beaucoup d'argent ou qu'on n'en ait pas beaucoup, l'idée, c'est que c'est un sujet auquel on a tendance à pas s'occuper parce que ça nous fait peur, parce qu'on se sent pas, parce que ça a l'air tellement compliqué à comprendre. Et du coup, la clé, c'est de se faire accompagner. L'argent, c'est pas que pour les riches, l'accompagnement. L'accompagnement, c'est juste pour se sentir libre et aligné avec ses projets.
C'était Polychrome pour S'épanouir au travail. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cette émission consacrée à la gestion des finances personnelles au service de la qualité de vie au travail. Un grand merci à Émilie de Dieu pour la richesse de ses partages, ses éclairages concrets et son engagement au service de l'épanouissement professionnel. On a exploré ensemble des pratiques simples et puissantes qui peuvent être mises en place à titre individuel ou par les entreprises. J'aimerais également remercier Théo Gandoni pour l'assistance technique et la qualité de son accompagnement tout au long de cette émission. Et si cet épisode vous a inspiré, vous pouvez le partager autour de vous, en discuter avec vos équipes et poursuivre la réflexion dans vos pratiques managériales. Pour cela, retrouvez le podcast sur notre site internet rcf.fr/Alsace et je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances personnelles.